La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour.
Aujourd'hui, étant élève au lycée agricole d'Aubenas dans la filière STAV.
STAV comme science et technologie de l'agriculture et du vivant.
Nous allons donc vous parler d'un sujet qui nous concerne, l'agriculture et l'engagement citoyen.
Dans le cadre d'un projet de création d'une émission radio sur l'engagement, ils ont accueilli pour débuter ce projet deux intervenantes engagées sur le territoire.
Vous sensibiliser sur ce sujet avant les élections nous semble être une bonne idée pour vous encourager à faire le bon choix. Après cette interview, j'espère que vous serez éclairés en matière de transition agroalimentaire et d'engagement citoyen.
Moi, je suis Cécilia, donc je travaille dans une association qui s'appelle Les Greniers d'Abondance, pour laquelle je suis coordinatrice. Et c'est une association qui vise à soutenir la transformation du système alimentaire. Et on a plusieurs objectifs. C'est vraiment essayer de permettre à tout le monde de se nourrir sainement et suffisamment, malgré les crises en cours et à venir. Faire en sorte que ceux qui nous nourrissent puissent vivre décemment et puis que la valeur et le pouvoir soient vraiment distribués de manière équivalente du champ à l'assiette. Et le tout sans dégrader la capacité des générations futures à en faire de même. Et puis pour ça, on produit des ouvrages de recherche qui essaient d'accompagner les collectivités à mettre en place des politiques de résilience alimentaire. Et puis on développe des outils de sensibilisation.
Donc Karine Younes, moi je suis chargée d'études pour la transition agri-alimentaire au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. J'ai un poste un peu particulier parce que je suis embauchée pour faire une thèse. Donc je fais une thèse en sociologie sur la mobilisation des différents types d'acteurs sur le territoire ardéchois pour la transition agricole et alimentaire, avec plusieurs entrées, une entrée foncier, justice alimentaire, changement de pratique agricole et démocratie-gouvernance.
Tout d'abord, on aimerait savoir qu'est-ce qu'un engagement citoyen ?
Pour moi, un engagement citoyen, c'est participer activement à la vie de la société pour contribuer au bien commun. Et puis c'est quelque chose qui peut se faire, je pense, à plusieurs échelles. À son échelle, ça peut être juste voter, participer à des consultations publiques. Si c'est par souci d'environnement, on peut chercher à réduire son empreinte carbone. C'est tout ce qui s'est fait autour des éco-gestes qu'on peut remettre en question, mais qui sont bien de faire tout de même. Et puis, ça peut être de s'impliquer dans une association, en fait, qu'elle soit culturelle, sportive, humanitaire, environnementale. Si on élargit, ça prend en compte tout ça, quoi.
Ouais, en sociologie, on dit souvent que l'engagement, c'est de passer d'une position passive dans la société à une position plus active sur notre vie quotidienne. Donc, ça peut être effectivement des engagements qui vont à des degrés de demande de temps différents. Donc on peut avoir effectivement juste une participation ponctuelle à une manifestation et on peut aller jusqu'à l'organisation et vraiment constituer des groupes intentionnellement pour changer quelque chose et pour essayer de réfléchir collectivement au changement de la société.
L'engagement citoyen peut-il avoir une influence sur l'agriculture ?
Alors oui, je pense qu'on peut avoir plusieurs types d'engagement selon son degré de connaissance et de motivation. Mais en soi, on peut créer une caisse locale de l'alimentation pour mettre en place l'idée de la SSA, de la Sécurité sociale de l'alimentation. Participer à la création d'une AMAP. Puisque la gestion de l'association se fait de manière collective, elle implique tous les adhérents. On peut peut-être même participer au PAT en aidant à co-construire des parties de la stratégie alimentaire locale. Certaines communes proposent aussi des budgets participatifs où les habitants peuvent voter pour différents projets. Est-ce qu'ils ont envie de mettre en place des jardins partagés, de mettre de l'argent dans la cantine durable, ce genre de choses. Et puis, il y a aussi les supermarchés alimentaires participatifs, comme il existe, enfin moi je connais au moins à Paris, la Louve, et puis à Montpellier, il y a la Cagette. Où là, les membres sont copropriétaires et puis ils participent en fait au fonctionnement du magasin. On a déjà tout ça. Et puis, je pense qu'on peut participer aussi à d'autres types de fonctionnement, comme par exemple les SCIC, qui sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où là, elles associent des producteurs, des salariés, des consommateurs, des collectivités. Et en fait, c'est grâce à ces structures-là qu'on peut mettre en place des projets de type rachat de foncier, ces supermarchés coopératifs dont je venais de parler, de gestion de tiers-lieux et toutes ces choses-là.
Pour apporter quelques exemples locaux qui peuvent peut-être nous inspirer, donc il y a plusieurs façons de s'engager, il y a plusieurs types de profils d'engagement. C'est un peu ce que j'étudie dans ma thèse. Il y a des gens qui vont plus avoir envie de mettre la main dans la pâte et de faire un jardin partagé, de mettre en place une régie maraîchère. Donc, par exemple, il y a eu l'exemple à Vinzac, une association qui, en partenariat avec la mairie de la commune, mettait en place une régie maraîchère. Et il y avait un maraîcher qui était salarié de la commune pour la production maraîchère, pour la restauration collective. Et il y avait tout un tas de citoyens autour pour la gestion et pour aider ce maraîcher à s'en sortir et pouvoir produire. Et après, il y a d'autres profils où ça va être plus de la construction de documents, de plaidoyer. Donc nous, dans le cadre de ma thèse, c'est une recherche-action, donc je ne fais pas que de la recherche, je fais aussi de l'action. On a mis en place un conseil local de l'alimentation à l'échelle du centre Sud-Ardèche, on monte jusqu'à Privas, pas au-dessus. Et l'idée, c'est d'avoir une quarantaine de membres très divers et variés. On a des agriculteurs, on a des élus, on a des chargés de mission de différentes collectivités et même des services d'État qui vont réfléchir sur la transition sur notre territoire, qui vont écrire des choses collectivement. Et après, ces documents, ils vont à la Direction régionale d'agriculture, alimentation et forêt. Et on ne dit pas que ça va faire tout changer, mais du moins, c'est une réflexion à partir d'une analyse collective de la réalité ardéchoise, où on essaye de montrer des choses et de pointer du doigt certains limites et même certains atouts du territoire. Donc il y a plusieurs façons de s'engager et d'essayer de changer l'agriculture.
Vous parlez de la SSI, j'aimerais savoir quels sont les principes et le fonctionnement, avoir un peu plus de détails dessus.
Alors le principe de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'on crée en fait une caisse locale de l'alimentation qui va être constituée de cotisants. On va avoir un certain nombre de personnes qui vont cotiser en fonction de leurs moyens. Ils vont élire en fait plusieurs personnes qui vont pouvoir organiser la gouvernance de la caisse. Et puis on va avoir des commissions spécialisées, comme par exemple la commission de conventionnement. Elle va en fait examiner tous les commerces et les producteurs qui vont proposer leurs produits, et elle va accompagner en fait les membres de la caisse locale à choisir des critères de sélection. Est-ce qu'on veut avoir des produits bio, local, à prix juste? Et donc l'idée, c'est de permettre à différentes personnes qui cotisent d'aller faire leurs courses avec un certain budget dans des magasins dont certains produits sont conventionnés.
Ça fait partie des projets de lutte contre la précarité alimentaire, mais on travaille pas que sur les personnes en situation de précarité. Un des principes, c'est vraiment l'universalité. C'est comme la sécurité sociale qu'on a depuis les années 40 en France. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner des moyens à tout le monde. Donc c'est l'idée de ne pas faire une politique que pour les personnes en situation de précarité.
Et donc nous, les Greniers d'Abondance, on pense que ça peut être vraiment un bon outil pour la transition alimentaire, parce qu'en fait, ça va permettre d'offrir des débouchés à plein d'agriculteurs s'ils ont donc leurs produits qui viennent à être conventionnés par la SSA. Ça permet d'aller dans le bon sens.
Donc moi j'avais une question qui était au niveau des moyens mis en place par les mairies et par le département, en tout cas par l'État, pour aider à cette transition agroalimentaire. Qu'est-ce qu'ils mettent en place spécialement ?
Alors il y a deux choses, c'est ce qu'on se disait. Il y a ce qu'ils mettent en place sur notre territoire et ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc sur ce qu'ils mettent en place, c'est très différent selon les différentes communes et différentes communautés de communes. Donc on a sur le territoire ardéchois aujourd'hui 8 projets alimentaires territoriaux ou interterritoriaux. Donc on n'a pas encore, comme la Drôme, qui est couverte intégralement de PAT. Ce n'est pas le cas en Ardèche, mais ça commence à bien se développer. Avec la première communauté de communes, c'était Bassin d'Aubenas et Val-de-Ligne, qui se sont réunis en 2021 pour un projet alimentaire interterritorial avec 2 communautés de communes. Et après, à l'interne, c'est très différent les ambitions des différentes communautés de communes et des communes. Par exemple, Ardèche est sous ses volcans, donc autour de Jaugeac, Thueil, où l'idée principale, c'est de travailler sur la précarité alimentaire et sur le foncier. Donc il y a vraiment les deux entrées, c'est installer, parce qu'ils ont fait le constat, on n'a pas assez d'agriculteurs sur notre communauté de communes pour pouvoir alimenter localement, ouais, sur le bassin. L'idée d'aller justement discuter avec des propriétaires fonciers pour essayer de débloquer le foncier, de déverrouiller le foncier, de convaincre les gens à vendre et pas laisser les terrains s'enfricher. La question de l'accessibilité alimentaire aussi, ils ont pris en régie directe l'aide alimentaire en partenariat avec la Banque alimentaire à Valence. Donc ça, c'est une première fois en France qu'une communauté de communes prend en charge en interne et qui transforme l'aide alimentaire qui est souvent portée par des associations en service public. Donc c'est dans leur organigramme de la communauté de communes et à ce service public d'aide alimentaire. Donc voilà, les ambitions, elles vont jusque-là. Par exemple, la communauté d'agglo Priva Centre-Ardèche, ils ont fait tout un travail sur la mise en place d'espaces tests agricoles pour que des jeunes agriculteurs puissent se tester avant de pouvoir s'installer pour de vrai. Bassin d'Aubenas, ils ont fait tout un travail de diagnostic des friches agricoles, d'identifier quelles sont les friches et qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le potentiel agronomique de ces friches. Après, il y a tout un travail qui peut être fait pour la restauration collective. Donc on a la loi Egalim depuis 2018 qui va poser un cadre et qui va fixer des objectifs de 50% de produits de qualité sous SICO, donc signe d'origine et de qualité, dont 20% en bio pour l'approvisionnement de la restauration collective. Et après, c'est selon chaque département pour les collèges et chaque commune pour les écoles qui va décider de est-ce que je vais jusqu'à l'objectif ou je le dépasse. Effectivement, je peux avoir une ambition qui est plus importante que la loi et je peux aller au-delà. Donc sur notre territoire, c'est vraiment très, très divers. Après, moi, ce que je dirais... Le département, ils ont fait tout un travail de formation pour les chefs de cuisine, de restauration collective, des collèges, pour qu'ils puissent apprendre à travailler cette matière fraîche, parce qu'il y en a, ils ne savaient pas faire, ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les équipements, ils n'avaient pas les compétences pour travailler la matière fraîche, les produits frais. Donc ils ont dégagé du temps, ils ont mis en place, ils ont embauché quelqu'un pour être cuisinier mobile. Comme ça, on peut dégager du temps des différents cuisiniers pour qu'ils partent en formation et comme ça, ils sont remplacés directement. Le département prend en charge ce remplacement. Donc voilà, il y a plusieurs types d'ambitions. Je ne sais pas, Cécilia, si tu as des choses à...
On ne donnera sans doute pas la liste la plus exhaustive de toutes les compétences des communes, mais on peut ajouter aussi la protection des aires de captage en eau potable. Ils peuvent faire un inventaire de la biodiversité communale, mettre en place des mesures pour protéger le foncier agricole. Et ils peuvent essayer, en fait, participer au montage d'épiceries solidaires, proposer un système de tarification sociale de la cantine scolaire, aider au soutien et au développement de fermes pédagogiques, de jardins partagés, soutenir des chantiers des entreprises d'insertion agricole et alimentaire, soutenir l'installation et le maintien d'ateliers, des légumeries, des abattoirs de proximité, des commerces alimentaires de proximité, toutes ces choses-là. Un autre, ça peut être juste d'intégrer les risques alimentaires dans le diagnostic des risques et scénarios de rupture d'ICRIM, qui est assez important, et puis protéger le foncier.
Y a-t-il des aides à l'installation qui sont proposées via le collectif CABA ou d'autres associations ?
Alors, pas via le collectif CABA. Donc le collectif CABA, c'est un collectif vraiment de plaidoyer et de réflexion collective sur l'autonomie agroalimentaire sur le territoire du bassin d'Aubenas, notamment dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, où la lutte du collectif, c'était vraiment de dire les terres agricoles, il faut qu'elles restent agricoles. Face aux risques, aux crises et ce qu'on vit déjà dans notre territoire, il faut absolument que les terres agricoles restent agricoles et qu'on puisse installer des gens sur ces terres. Donc nous, on n'a pas les moyens d'aider les gens à l'installation. Après, on a fait tout un catalogue, espèce de répertoire des terres agricoles en danger dans le cadre du PLUI, de l'élaboration du PLUI. Après, j'ai d'autres exemples. Par exemple, la communauté de communes Gorge de l'Ardèche, donc en sud Ardèche, ils ont mis en place l'aide à l'installation pour ceux qui veulent s'installer. Ils ont une aide je ne me souviens plus si c'est 3 ou 4 000 euros au moment de l'installation. Et après, un peu plus au bout de 3 ans, si l'installation elle est bien confirmée, elle est bien en place. Et en plus, il y a des primes. Donc si la personne s'installe en bio, elle a 500 euros de plus pour l'aider justement et pour inciter les installations pour qu'elles se fassent directement en bio. Pareil, la communauté de communes Ardèche des Soucé-Volcans a voté un budget de 20 000 euros par an pour l'aide à l'achat de foncier et d'équipements, petits équipements, parce que 20 000 euros à l'échelle d'une com, ce n'est pas énorme, mais de pouvoir aider les agriculteurs qui s'installent à bien s'installer dans des bonnes conditions et pouvoir accéder aux fonciers et pouvoir accéder aux équipements qui leur permettent de mettre sur pied leur projet.
Moi, j'ai une question qui est vachement en lien avec ce que vous venez de dire. C'est, je me demandais, est-ce qu'on peut vraiment atteindre l'autonomie alimentaire, sachant qu'il y a de plus en plus de population qui va prendre des espaces et ces espaces ne seront pas forcément du coup disponibles pour l'agriculture?
Alors, je ne pense pas qu'il faut qu'on vise l'autonomie alimentaire. Ça dépend de quel territoire on parle après, si c'est l'intercommunalité, si c'est le département. Mais de toute façon, il faut qu'on prévoie un système où tout est maillé. On peut quand même continuer à se répartir un peu des productions. Mais cependant, pour répondre à votre question, il se trouve que donc en Ardèche, l'agriculture elle est plutôt diversifiée et on pourrait nourrir apparemment 68% de la population avec les terres agricoles du territoire. Si on réduisait la consommation de viande des habitants du territoire, on pourrait même se nourrir complètement, on pourrait être complètement autonome. Mais il faudrait réaffecter en fait certaines terres agricoles parce que, par exemple, en grande culture, en l'Ardèche, on n'est pas du tout bon. On est à 0,9%. On produit pas mal de fruits, assez peu de légumes. On produit du vin, ça peut toujours servir, mais bon. Et puis sinon, en fait, on a en majorité des fermes en polyculture, polyélevage. Et puis après, il y a pas mal de production de viande, de bovins, ovins, caprins, tout ça.
Comment les agriculteurs peuvent agir sur l'exploitation pour la sécurité alimentaire ?
Effectivement, les agriculteurs peuvent agir sur leur parcelle en adoptant des pratiques agricoles durables, en essayant de réduire les intrants de type engrais, pesticides, en diversifiant les cultures, faire de la rotation, mettre en place des couvertures végétales. Il faut qu'ils arrivent à optimiser leur irrigation parce qu'on va avoir un gros problème de ressources en eau sur le territoire des Chouans en particulier. Il faut qu'ils arrivent à améliorer la fertilité des sols pour protéger l'érosion. Ils peuvent travailler sur de la sélection variétale pour sélectionner des variétés qui vont être particulièrement résistantes aux maladies et aux changements climatiques. Mais en fait... je trouve que c'est un peu dur de demander ça comme ça aux agriculteurs. Et donc, en fait, pour moi, le rôle des agriculteurs, c'est pas tant ça. Mais c'est plutôt de transmettre des savoir-faire ancestraux qu'ils ont et qu'on est en train de perdre, je pense, avec le système agro-industriel qui leur impose une manière de fonctionner qui est vraiment hyper productive. Et puis, il faut qu'ils arrivent à partager leurs bonnes pratiques. Et surtout, pour moi, en fait, le rôle central des agriculteurs, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à recentrer le débat actuellement. Et il faut qu'on arrête de parler de problèmes de normes environnementales et tout, et qu'on revienne vraiment sur le prix des aliments, leur salaire. Il faut qu'ils arrivent à dire que le problème, c'est vraiment la mise en compétition avec le reste du monde, plus que le fait d'avoir des belles parcelles pleine de biodiversité, parce que je pense qu'en fait, ils souhaitent tous ça. Et voilà, donc je trouve ça un peu dur de juste leur dire « Mais mettez en place des couvertures végétales », parce qu'en fait, ils vont nous dire derrière « Ouais, je vis avec quoi ?» Donc voilà.
Moi, j'ai une de mes études de cas de la thèse, c'est un groupe d'agriculteurs sur le plateau Ardéchaux-Alti-Ligérien. Et là, pour le coup, il y en a qui sont syndiqués, d'autres non. Mais l'objectif du groupe est de... Enfin, il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de réfléchir ensemble. Ils ne sont pas dans une ferme collective, ils sont une dizaine de fermes. Mais l'idée de réfléchir ensemble, même s'ils ont des fermes très diverses, sur comment on valorise l'herbe, comment justement on met en place des pratiques plus vertueuses, plus agroécologiques sur nos différentes fermes, avec un suivi par un animateur. Et ça, l'hypothèse, c'est que ça va faire tache d'huile sur le territoire et qu'ensuite on va pouvoir diffuser, ou du moins communiquer auprès des fermes et auprès des différents agriculteurs pour essayer de déboucher, d'aboutir à un processus de transition à l'échelle d'un territoire. Le deuxième objectif aussi, et c'est un peu ce que j'ai pu identifier à travers l'étude, c'est que ces agriculteurs-là, ils se sentaient stigmatisés sur le territoire. Moi, j'ai plusieurs verbatims d'entretien où ils disent on ne me prend pas au sérieux, on me prend pour un fou, parce que moi, je veux valoriser l'herbe, je ne veux pas avoir de céréales dans ma ferme, je ne veux pas importer de la paille, et on me prend pour un fou. Et le fait d'avoir ce groupe-là me rassure et me dit en fait, ça va, je ne suis pas fou, je ne suis pas seule, on peut réfléchir et on peut faire autrement. Donc déjà, cette reconnaissance et ce réconfort dans ces pratiques, ça peut aider les agriculteurs. Et après, en termes de parole, il y a les syndicats qui portent différents types de paroles et des paroles de différents types de catégories et d'ambitions et de visions de futur de l'agriculture. Donc on a trois principaux syndicats, en France. Donc on a la Confédération paysanne qui va vraiment porter un message d'agriculture paysanne, d'installation de paysans nombreux pour justement la souveraineté alimentaire. Il y a la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles, la FNSEA, avec une branche jeunes agriculteurs, les JA, qui va porter plus un message des grandes cultures, de la production, de la performance agricole. Et on a aussi la coordination rurale qui commence à prendre bien une place, notamment dans le secteur du sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine, où le message, il est pour l'agriculture, la petite agriculture, mais une petite agriculture assez mécanisée, une petite agriculture où ils questionnent beaucoup les normes, justement ce qu'il disait Cécilia tout à l'heure, les normes environnementales, ils posent question sur ces normes environnementales et ça peut aller jusqu'à des discours très radicaux en termes de nationalisme français. Donc voilà, il y a plusieurs types d'agriculteurs, il y a plusieurs types de messages portés par les syndicats aussi.
Les agriculteurs, en fait, ils subissent, je pense, plusieurs pression, où on leur dit d'un côté qu'ils doivent avoir des pratiques agricoles durables et saines pour la biodiversité, etc. Sauf qu'en réalité, même si les pouvoirs publics parlent de développer la souveraineté alimentaire, etc., dans les faits, on leur demande toujours d'augmenter leur productivité, etc. Et donc, en fait, ils sont vraiment entre le marteau et l'enclume et ils peuvent absolument pas répondre à ces deux enjeux. Et donc, je pense qu'il faudrait déjà qu'on ait des collectivités, des pouvoirs publics qui soient clairs sur le fait que si on veut vraiment amorcer une transition alimentaire, il faut arrêter de demander à des exploitants d'être toujours plus compétitifs. Et ensuite, je pense qu'il faut les accompagner et les former au changement de pratique parce qu'en fait, on ne passe pas d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio comme ça, quoi.
Je pense juste l'engagement des collectivités territoriales, de l'État, ça passe aussi par le partage des risques. Parce que tout processus de transition, il demande beaucoup de changements techniques, économiques, sociaux, de dynamiques de famille. Ça demande vraiment des changements structuraux au sein d'une ferme, d'une exploitation agricole. Et ça génère aussi des risques. Et de pouvoir partager ces risques, de pouvoir aider les agriculteurs à se sentir suffisamment rassurés pour franchir le pas, ça peut être quelque chose qui peut aider dans le processus de transition.
Que faites-vous pour promouvoir une agriculture locale au sein d'un territoire pour les consommateurs ?
Pour moi, il y a deux choses. Il y a ce qu'on fait dans nos structures. Donc ce qu'il disait, nous on n'est pas dans une collectivité, si moi je suis dans une collectivité territoriale, mais c'est pas une communauté de communes, donc on a d'autres, on a une charte au parc et on a d'autres compétences, on n'a pas les compétences qui sont listées là, on ne les a pas. Ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de mon travail, j'anime le réseau des animateurs des projets alimentaires territoriaux en Ardèche, avec les 12 animateurs des 8 PAT. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de mutualiser des moyens, de mutualiser des diagnostics, des études, le contact avec la région, le contact avec le département, avec la direction régionale d'agriculture, alimentation et forêt, pour leur faire gagner du temps. Mais voilà, c'est à mon échelle, c'est très limité, mais c'est ce que j'arrive à faire dans le cadre de mon travail. Après, si on passe de l'autre côté, le rôle des consommateurs, depuis les années 2000, on en parle... À partir de la vache folle, il y a eu tout un tas de débats et de questionnements des consommateurs sur la sécurité alimentaire, sur qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, d'où ça vient. Et à partir des années 2000, il y a vraiment une augmentation, par exemple, des labels de qualité, d'origine, une attention au bio qui était déjà présent, mais qui va être plus mise en avant. Et donc on a beaucoup travaillé sur cette question de le pouvoir d'agir des consommateurs. On a même le petit slogan de Biocop qui dit que manger, c'est voter, que manger, c'est un acte politique. Et effectivement. Et après, depuis les années 2000, on s'est posé la question sur est-ce qu'on peut tout mettre sur les consommateurs et est-ce que tous les consommateurs ont le même pouvoir d'agir. Et donc c'est là où on commence à se poser des questions sur la précarité alimentaire et sur est-ce que tout le monde peut décider aujourd'hui de consommer bio, local. Eh ben, on s'est rendu compte que non, parce que les inégalités sociales, parce que le capitalisme. Et donc, aujourd'hui, on nuance un peu, enfin moi, en tout cas dans ce que je fais dans ma recherche et dans mon travail, je nuance un peu le rôle des citoyens, le rôle des consommateurs, il n'est pas le même en termes d'engagement, en termes de pouvoir d'agir, parce que pendant les années 2000, on a souvent dit... C'est par la consommation qu'on va changer le système. Si on se met tous à manger bio, ils vont bien comprendre qu'il faut produire bio et on va changer. Mais en fait, on ne peut pas tous manger bio. Et il y a des choses, il y a des pouvoirs publics, il y a des rapports de force, il y a des rapports de pouvoir qui font qu'on n'a pas tous le même pouvoir d'agir. Donc pour moi, il y a effectivement, si on peut choisir de manger local, si on peut choisir de s'inscrire à une AMAP, si on peut choisir de manger bio, bah, tant mieux. On aura vraiment un rôle important à jouer là-dessus. Mais il faut aussi être conscient que pas tout le monde a cette capacité-là. Et on ne peut pas tout mettre sur... comme disait Cécilia, on ne peut pas tout mettre sur le dos des agriculteurs. On ne peut pas non plus tout mettre sur le dos des consommateurs. Parce que ce n'est pas la responsabilité individuelle qui va faire. Il y a quand même un État derrière. Il y a quand même des moyens qui sont alloués à un truc plutôt qu'à un autre. Donc il y a des choix politiques qui se font et qui sont cruciaux pour imaginer une transition demain.
Concernant le rôle des collectivités, je leur renvoie la balle à nouveau. Pour moi, c'est vraiment eux qui ont le pouvoir en fait, de créer des environnements qui vont être favorables à la consommation de produits sains et durables et qui peuvent... mettre en place des réglementations sur la publicité pour interdire la promotion de produits qui sont mauvais pour la santé. Ils peuvent mettre en place des actions d'éducation et de sensibilisation et plein de choses de ce type-là. Donc c'est quelque chose que le collectif CABA pourrait peut-être aider en fait à mettre en place quand on reparlera un peu de, je pense, tout ce que les citoyens peuvent faire. Je pense qu'on peut essayer, nous, de créer des événements, en fait, pour parler de tout ça. Et sinon, côté les greniers d'abondance, on a développé une plateforme de sensibilisation qui s'appelle Territoire Fertile. Et en fait, elle aide à la mise en œuvre de projets de transition agricole et alimentaire sur le territoire par plusieurs choses. En fait, elle propose un diagnostic de territoire. Donc, vous rentrez n'importe quelle commune, interco, Ardèche, etc. Et puis, vous avez les gros enjeux de ce territoire-là. Quels sont les défis principaux qu'il faut traiter? Et puis, des idées d'action et même des exemples inspirants de territoires similaires qui ont mis en place des choses. Il y a aussi des décryptages pour mieux comprendre un peu toutes les problématiques liées à l'eau, liées aux menaces, liées à la précarité alimentaire, etc. Et on a également une cartothèque qui permet de voir tout ça, de voir à l'échelle de la France, en fait, les disparités entre les différents territoires. Et voilà, et c'est un outil donc, qui a été financé par la Banque des Territoires, l'ADEME, la Fondation de France, la Fondation Carasso, et qui est lauréat du Programme National pour l'Alimentation 2024, donc qui est bien soutenu. Et donc, grâce à cet outil, en fait, on essaie vraiment d'inviter les citoyens à venir se renseigner sur les enjeux de leur territoire pour les aider à peut-être consommer mieux quand ils le peuvent.
Interview réalisée par la classe de terminale STAV, Sciences et Technologies de l'Agriculture et du Vivant, du lycée agricole Olivier de Serre à Aubenas. Ils accueillaient Cécilia, coordinatrice des Greniers d'Abondance, une association d'intérêt général dont le but est de soutenir la transformation du système alimentaire. Elle est aussi engagée auprès du collectif CABA, collectif pour l'autonomie alimentaire du bassin d'Aubenas. La seconde invitée était Karine Nunes, chargée de mission Transition alimentaire au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, en charge d'une thèse sur la mobilisation des acteurs locaux en faveur de la transition. Cette interview a été réalisée en préambule à la création d'une émission radio plus personnelle de la part de la classe sur l'engagement citoyen que vous pourrez retrouver très prochainement sur nos ondes.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.